Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous consacrons donc un nouveau rendez-vous à la pandémie de Covid-19 à la veille du retour à l'école des enfants. Une rentrée scolaire qui se fera masquée pour les élèves dès le cours préparatoire, le CP en France. Une échéance pour de nombreuses régions de la planète qui, pour la deuxième année de suite, voit ce rendez-vous modifié, voire carrément bouleversé par la pandémie. Si le chef du gouvernement français estime la quatrième vague épidémique stabilisée, il appelle à maintenir la vigilance individuelle et collective. Dans les régions d'outre-mer, notamment les Antilles, la situation reste extrêmement tendue. Alors que l'Union européenne affirme avoir vacciné 70% de sa population adulte, l'OMS juge que l'assouplissement des restrictions a été exagéré cet été en Europe. Alors quel effet la diffusion du variant Delta a-t-elle pu avoir sur l'évolution de l'épidémie ? Où en est-on aujourd'hui dans cette transmission ? Comment expliquer que certains territoires se retrouvent en extrême difficulté ? Nous nous intéresserons également à la situation sur le continent africain, là encore tant du point de vue des contaminations que de la vaccination. Et nous reviendrons sur les manifestations de défiance, comme le discours largement médiatisé des anti-vaccins. Nouvelle rentrée sous le signe du Covid aujourd'hui dans Priorité Santé. Rentrée masquée pour plus de 12 millions d'élèves en France dès l'école primaire. Comment le protocole sanitaire est-il décidé ? Surveillance des variants ? Est-il ou non possible d'atteindre le seuil de l'immunité collective ? Des questions que nous allons aborder en votre compagnie. Professeur Christophe Rapp, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue à l'hôpital américain de Paris, président de la Société française de médecine des voyages. Nous donnerons la parole à Françoise Moulin-Civil, conseillère de cité établissement au ministère de l'Enseignement supérieure de la recherche et de l'innovation. Elle a signé le rapport préparatoire Ma rentrée 2021. Nous joindrons au Sénégal le docteur Massamba Sassoum Diop, médecin urgentiste, président de SOS Médecins à Dakar, également président de la Société sénégalaise d'anesthésie, réanimation et médecine d'urgence. Et puis l'Organisation ouest-africaine de la santé a coordonné une enquête sur l'adhésion aux mesures de prévention contre le Covid. On interrogera ce sujet, celui qui a coordonné cette étude, Bernard Seitre, directeur de BNS Communication, membre de la Société francophone de médecine tropicale et santé internationale.
Priorité santé sur RFI.
Alors cette année encore, il a fallu s'organiser pour cette nouvelle rentrée sous le signe du Covid-19. Et le Premier ministre estime que la quatrième vague est maîtrisée à ce stade. Professeur Christophe Rapp, est-ce que vous partagez ce point de vue, on peut dire, plutôt optimiste de Jean Castex ?
Alors en fait, du fait de la vaccination, en métropole, la situation est meilleure parce qu'on alarme de la vaccination et qu'il y a un recul de cette quatrième vague. On pourrait dire qu'en métropole, la situation est contenue. Je dirais pas maîtrisée, elle est contenue. Paradoxalement, dans les départements ultramarins, la situation reste encore très tendue et elle pourrait être encore s'aggraver en Guyane ou à Mayotte. Donc la situation est en fait un peu mitigée à l'aube de la rentrée.
Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, on parle à l'instant T, comme on dit, et difficile encore de se projeter ?
Alors c'est difficile de se projeter parce que le grand risque pour la métropole, c'est effectivement le brassage des populations. Cet été, ce sont sur les littoraux qui avaient les incidences les plus fortes, compte tenu du brassage des populations. Maintenant, on assiste à un retour des estivants dans les grandes métropoles françaises. Et puis, on a la rentrée des classes. Ça fait plus de 10 millions de personnes entre les étudiants et les enseignants. Ce brassage de population va poser question parce que les enfants, les jeunes de 12 à 17 ans sont vaccinés à 60%. Mais vous savez que pour l'instant, ne vaccine pas les moins de 12 ans. Donc, il y a un réservoir de gens susceptibles, comme on dit, c'est-à-dire qui n'ont pas été en contact avec le virus. Et on a encore des gens fragiles non vaccinés, puisque malgré un succès de la vaccination, il reste encore un petit bout de chemin à parcourir.
Alors, l'Europe impose à nouveau des restrictions de voyage à partir de 5 pays, dont les États-Unis. Les États-Unis qui sont redevenus le pays où le Covid fait quotidiennement le plus de morts. Alors, ces restrictions, elles sont évolutives. Dans certaines zones, les contaminations repartent. Elles sont contenues ailleurs. Professeur Christophe Rapp, est-ce qu'on comprend ? Est-ce qu'on explique pourquoi il y a ce yo-yo ?
Mais à l'échelle du monde, le nombre de cas continue d'augmenter. Hein. Donc la pandémie n'est pas contrôlée. La pandémie, elle évolue en Afrique, elle est un peu plus calme en Amérique du Sud, elle augmente aux États-Unis. En fait, la planète est sous la menace de ce variant Delta, beaucoup plus contagieux, qui vient effectivement accélérer les épidémies. Et le reflet de l'épidémie dépend de la couverture vaccinale. Et autant en Europe, on est à 70%, autant en Afrique, on est à moins de 2% de la population globale vaccinée.
Surtout en raison du manque d'offres de vaccins. On va y revenir, hein, c'est essentiel. Ces variants que l'OMS surveille, là en Colombie, de ces toutes dernières heures, hein, baptisées de la lettre grecque mu, un autre cité par l'Afrique du Sud, qui n'a pas encore été signalé comme, on va dire, à gros risque par l'OMS. Est-ce que ça veut dire qu'on va continuer d'être dépendant semaine après semaine de toutes ces mutations ?
Alors la surveillance des variants, c'est un élément de la riposte à cette épidémie. Et effectivement, on entend parler tous les jours de nouveaux variants. Après, le statut du variant peut changer. Le variant qui pose problème actuellement, c'est ce variant Delta. Il est très prédominant. En France, 98% par exemple. D'autres variants peuvent émerger. Et ces variants, ils sont le fruit d'une circulation virale trop importante. Et c'est d'ailleurs un des enjeux, un des défis de la planète en 2022. C'est vacciner toute la planète. Parce que tant qu'on aura des réservoirs de personnes susceptibles et une circulation virale très haute, on va voir émerger d'autres variants. Donc c'est une des grandes incertitudes sur le plan scientifique.
Professeur Raff, je voudrais qu'on revienne juste à la France. On a dit en métropole hospitalisation contenue, mais c'est toujours pas le cas dans certains territoires d'outre-mer. C'est important d'y revenir. Situation très tendue dans les Antilles françaises, Martinique, Guadeloupe. Pour la Martinique, par exemple, le nombre de lits disponibles en réanimation a été multiplié par 5 par rapport à la normale. C'est démultiplié, mais ça suffit toujours pas. Il a fallu faire des évacuations sanitaires, faire venir du personnel de métropole, des indicateurs mauvais. Pourtant, il y a eu un confinement strict. Comment est-ce qu'on explique, on va le dire, tout simplement, une telle catastrophe ?
Ben en fait, en Martinique ou en Guadeloupe, on paye le prix d'une couverture vaccinale extrêmement faible, trois fois plus faible qu'en métropole, et un respect des gestes barrières beaucoup moins bon, parce que cette population se sentait moins concernée pour de nombreuses raisons, et que la population donc est peu vaccinée, et il y a beaucoup de facteurs de risque, hein, de comorbidité dans cette population, même si elle est globalement moins jeune, c'est une population qui est en plus mauvaise santé, avec une infrastructure sanitaire plus faible qu'en métropole. Donc il y a tous les ingrédients pour une catastrophe sanitaire. La Martinique, la Guadeloupe sont en train de vivre notre première vague en réalité. Ils avaient été relativement épargnés. Maintenant, ils vivent la première vague avec le variant Delta très contagieux.
On rappelle toujours les comorbidités, hypertension artérielle, obésité, diabète.
Oui, c'est ça. Oui, c'est les trois pathologies les plus prévalentes dans les départements ultramarins.
Alors, la rentrée scolaire a donc été repoussée sur place. Même chose en Guyane, là aussi où la pression sur les services de soins intensifs est intense. Et puis aux antipodes, la Polynésie, professeur Rapp. Pourquoi des territoires aussi distincts, aussi éloignés, à chaque fois on parle de département, territoire, d'outre-mer, je ne sais pas précisément le statut de chacun immédiatement au moment où je vous parle, mais pourquoi ce point commun maintenant ?
Alors en fait, ça dépend de la circulation du virus et de brassage de population. Il y a des facteurs de densité de population, il y a des facteurs d'immunité, il y a des facteurs de climat, de saison, etc. Tous ces facteurs, quand ils sont réunis, ben, entraînent, en Polynésie, on a aussi une population plus jeune, mais on a un taux d'obésité très important. Mmh. On a un état sanitaire moyen de la population qui est inférieur et c'est un endroit où la structure sanitaire est plus fragile également. Donc là aussi, les ingrédients sont réunis avec un taux de couverture vaccinale très faible aussi en Polynésie française, avec une hésitation vaccinale forte.
On va revenir sur cette question clé de la vaccination, en France, ailleurs bien sûr, mais tout de suite on va parler de l'organisation de cette rentrée pas comme les autres.
RFI à Paris, 89 FM.
Des indicateurs sanitaires que les autorités ont bien sûr suivis ces dernières semaines pour adapter le protocole pour les établissements d'enseignement. Françoise Moulin-Civil, bonjour. Bonjour madame.
Oui, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends parfaitement. Vous êtes conseillère au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Vous avez signé un rapport qui s'intitule « Ma rentrée 2021 ». Aujourd'hui et dans les jours qui viennent, les étudiants vont retourner à l'université vers le 13 environ, pour certains d'entre eux, un petit peu plus tard pour d'autres jeunes qui sont dans l'enseignement supérieur. Comment est-ce que vous voyez les choses ?
Alors, écoutez, d'abord, beaucoup d'étudiants sont déjà rentrés. Mmh. Hein, ce qu'on appelle les semaines de pré-rentrée ont commencé le 25 août. Voilà, et vont s'étaler effectivement jusqu'au 13 septembre. Guerre au-delà quand même. Je pense qu'il y a un vrai désir de rentrer. C'était le sous-titre de mon rapport. Écoutez, cette rentrée, elle a été anticipée. C'était l'objectif de la mission que m'a confiée la ministre de l'Enseignement supérieur. Alors, moins en tant que conseillère du ministère qu'en tant qu'ancienne présidente d'université et qu'ancienne rectrice d'académie. Donc, anticiper la sortie de crise, préparer la rentrée étudiante, puisque c'était bien le focus de ce rapport. Et nous avons essayé, je dis bien nous, parce que c'était aussi un travail collectif, d'identifier les leviers de réussite de cette rentrée. Et c'est vrai que nous avions identifié très vite quatre conditions de reprise. La première d'entre elles, et c'est évidemment le sujet de votre émission, des conditions sécurisées et les plus sécurisées possibles au plan sanitaire, même si, bien sûr, il y a d'autres conditions de reprise, comme l'accompagnement social des étudiants, l'organisation même des enseignements et une reprise de la vie de campus. En tout cas, tout le monde voulait un retour à la normale en cette rentrée, c'est-à-dire du 100% en présentiel, en restant attentif, et il serait évidemment très très dangereux de ne pas le dire, tout en restant attentif à l'évolution à l'évolution sanitaire.
Bien voilà. Sûr, impossible de séparer le côté santé du côté du corps et de l'esprit. On l'a vu, on l'a pointé ces derniers mois, à quel point l'isolement, la mise à distance des jeunes leur a fait du mal. Justement, sur ce point aussi avec le risque de décrochage, les problèmes de budget, joindre les deux bouts tout simplement pour manger quand on est jeune, l'impact sur cette santé mentale des jeunes. Est-ce qu'il y a certains dispositifs d'accompagnement qui vont être maintenus, voire amplifiés ?
Oui, vous avez raison. La crise sanitaire a évidemment révélé quelque chose qui existait, hein, mais peut-être ça l'a mis au grand jour, a révélé la situation de fragilité, de précarité dans laquelle vivent un grand nombre de nos étudiants, qu'ils soient d'ailleurs ruraux, urbains, périurbains, enfin peu importe l'endroit où ils vivent et où ils étudient. Alors, ils ont pu bénéficier effectivement depuis le début de la crise, donc depuis dans les deux dernières années, d'un certain nombre d'aide, et le rapport préconise de les prolonger. Alors, ça concerne évidemment la lutte contre la précarité. Vous venez d'y faire allusion, tout ce qui concerne la restauration, l'accueil en résidence universitaire, etc. Mais aussi, et ce n'est pas évidemment un petit sujet, l'accès aux soins, l'accès à des soins de qualité. On oublie trop que parfois nos étudiants restent très éloignés de cet accès aux soins. Et en particulier, effectivement, on a dû mettre en place dans les deux dernières années, enfin les établissements d'enseignement supérieur, des dispositifs, en particulier le dispositif santé psy étudiant, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement nos étudiants se retrouvaient très isolés dans leur chambre universitaire ou même parfois chez eux. Et donc ce suivi de la santé mentale est une préoccupation du ministère et des établissements d'enseignement supérieur. Et cette mesure va être pérennisée, en tout cas dans les prochains mois, de façon à ce que les étudiants puissent consulter de façon gratuite et reçoivent surtout un suivi psychologique.
Une autre donnée importante pour cette rentrée, bien évidemment, c'est la vaccination. Est-ce que justement l'enseignement supérieur, Françoise Moulin-Civil, à des indicateurs en ce qui concerne cette vaccination, ce niveau de vaccination des étudiants du supérieur?
Alors effectivement, le ministère a demandé à l'ensemble des établissements supérieurs de mettre en place alors des sondages pour essayer de mesurer cette couverture vaccinale. Ce n'est pas l'exercice le plus simple, parce qu'on ne peut pas rendre obligatoire évidemment la réponse à une enquête. Mais évidemment le ministère, non seulement le ministère suit cela de près, mais l'ensemble des établissements se sont mobilisés, alors en termes de communication, mais au-delà de cela, se sont rapprochés des agences régionales de santé.
On a déjà des chiffres, madame, ou pas?
Alors, des chiffres, non, parce que d'abord, je vous l'ai dit, tout à l'heure, la pré-rentrée vient
ça
de...
Ça commence,
donc c'est extrêmement difficile de mesurer cela. Et en tout cas, on rappelle évidemment qu'on doit conserver les gestes de précaution, les gestes barrières, etc. Il y a des distributions d'autotests, il y a effectivement aussi des tests antigéniques mis à la disposition des établissements. Tout cela est compensé financièrement pour les établissements publics, compensé financièrement par le ministère. Et voilà. Donc on essaie d'estimer cette couverture vaccinale, ça va se faire dans les prochaines semaines.
Et on entend parler des centres de vaccination mobiles, même des actions de vaccination directement dans certains établissements scolaires. Est-ce que ce sera la même chose au niveau des universités, des facs ?
Absolument. D'abord, ça a déjà commencé en juillet. Un certain nombre d'établissements ont installé, des Barnum, mis à disposition souvent par les ARS, par les agences régionales de santé, des véhicules, donc évidemment mobiles, allant de campus en campus. Oui, pour essayer évidemment de vacciner, de mobiliser autour de la vaccination. Les établissements renvoient aussi évidemment sur l'offre locale de vaccination, l'offre de ville quand c'est possible. Mais la préoccupation, ce sont aussi ces antennes universitaires qui sont parfois éloignées des grands centres urbains. On en a beaucoup sur le territoire national. Et je voulais rajouter que la cible privilégiée évidemment de la mobilisation vaccinale qui se met en place, ce sont les étudiants internationaux. Et je renvoie à ce que disait tout à l'heure le professeur Rapp. C'est vrai que un certain nombre d'étudiants viennent de pays où effectivement la vaccination
n'est pas forcément accessible.
Donc évidemment, on aura un regard et une action tout à fait particulier sur ces étudiants-là.
Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, Françoise Moulin-Civil. Signalons que l'OMS et l'UNICEF estiment que les enseignants et le personnel des établissements scolaires devraient être parmi les groupes prioritaire pour la vaccination contre le Covid-19. Professeur Rapp, cette question de la vaccination en fonction des tranches d'âge, des catégories sociales, bien sûr, c'est un enjeu international. Avant de parler de la question de l'adhésion, des polémiques, etc., on insiste dessus depuis des mois et des mois, il s'agit de la répartition absolument inégale des vaccins. Ça, c'est vraiment de l'information et de l'actualité. L'accès à la vaccination, on peut citer des initiatives ponctuelles, 300 000 doses de vaccins anti-Covid données par les États-Unis au Congo-Brazza, 10 millions de vaccins envoyés en Afrique par l'Union africaine, via l'Union africaine par la France. Mais bon, il y a des gestes, malgré les intentions, y compris lors de grands sommets. Dans les faits, on est loin du compte.
Oui, on est loin du compte, comme souvent dans les ripostes épidémiques, les pays du Sud sont moins bien servis. Et c'est vrai qu'on a plus de 70% de vaccinés en Europe, moins de 2% en Afrique. Le mécanisme COVAX a pris du retard, ça commence à monter un peu en puissance. Mais il y a vraiment nécessité d'accélérer les dons et d'organiser mieux la vaccination en Afrique. Alors, il y a une responsabilité des États africains aussi, parce qu'ils doivent, en amont, mettre en place un dispositif. Le tout n'est pas comme souvent quand on fait de l'aide aux pays du Sud de donner. Il faut avoir toute la chaîne et beaucoup de pays n'ont pas pris encore la mesure de la préparation et notamment de la logistique. Et donc, il faut beaucoup d'argent pour organiser une logistique pour vacciner des populations en milieu rural sur des territoires extrêmement grands.
Vacciner, donc, c'est pas simplement envoyer des doses.
Exactement, voilà. C'est un enjeu éthique, logistique et sanitaire qui est vraiment devant nous.
On retrouve en ligne de Dakar, docteur Massamba Sassoum Diop. Bonjour.
Oui, bonjour Caroline et bonjour professeur Rapp.
Alors on va bien sûr avec vous parler de la situation au Sénégal. Et on peut dire, docteur Sassoum Diop, sur place, il y a toujours une réunion au sommet toutes les 48 heures pour faire le point de l'épidémie.
Oui, en fait, il y a une réunion d'une part, ce qu'on appelle du COUS du centre opérationnel, tous les deux jours. Et en plus, il y a une réunion en début de semaine, qui est une réunion plus globale avec donc toutes les structures du ministère et même d'ailleurs d'autres représentants pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire.
Alors, sur le point de l'épidémie aujourd'hui au Sénégal, on en est où, pour dire les choses simplement ?
Alors en fait, ce qui s'est passé, vous savez, souvent on discutait, nous on avait remarqué qu'en mai-juin et en septembre, nous avions deux pics, liés plutôt d'ailleurs aux autres coronavirus, mais depuis une éternité, si j'ose dire. Et lié essentiellement au fait que d'un seul coup, il fait chaud, ceux qui ont des climatiseurs vont utiliser la climatisation, vont se retrouver un peu regroupés, et à ce moment-là, avec le chaud-froid, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre, en tout cas, entraîne donc une altération de la muqueuse, et ensuite le virus qui passe et qui infecte. Et on a eu exactement ça, sauf que le virus qui circulait, qui commençait à circuler, était le Delta. Et on a vu la positivité entre fin mai et juin de passer de 4% à 40%, à 60%. Et nous, dans nos, chez nos patients, on est monté jusqu'à 90% du jamais vu. Et dans la population, quand on prenait les tests nationaux, on était aux alentours de 65% de positivité. Et donc, ce variant Delta a tout occupé. Et on s'est retrouvé du coup à avoir effectivement énormément de personnes. Et vous savez, en fait, ce qui s'est passé, c'est ça a commencé par les jeunes qui ont pu, parce qu'il y avait, alors il faut comprendre aussi un élément important. Il y avait les mesures barrières qui étaient recommandées, mais pas de confinement. Les boîtes de nuit continuaient à agir, les regroupements et tout. Mais d'un autre côté, vous savez que c'est extrêmement difficile. Il y a eu des effets du premier et du deuxième confinement et il y a des mesures qui sont quasiment impossibles sur le plan économique à prendre quand vous avez une population qui vit au jour le jour et qui, dont 80% essaye de manger, de trouver ce qu'il faut pour manger le matin, ne l'a pas. Et du coup, on s'est retrouvé à une explosion totale. Alors, on attend une enquête de séroprévalence, mais ça m'étonnerait pas que ce soit aux alentours de 80 à 90% de la population. Je vous donne un exemple simple. Tous les gens que je connais, et à commencer aussi par, si j'ose dire, moi-même et dans notre maison, 100% des gens ont été infectés.
Ça veut dire très forte contagiosité, mais finalement, des cas, on va dire, assez bénins.
Alors, exactement, c'est très intéressant ce que vous dites là, parce qu'en fait, si on compare la première vague, qui est donc jusqu'au du 2 mars au 6 novembre, on a eu 327 décès. La deuxième vague, jusqu'en mai, jusqu'au 25 mai, 809 décès. Et la troisième vague, qui a été explosive, qui est montée très haut, vous savez, qui est très pointue en fait et qui est étroite, et donc avec probablement une infection d'énormément de gens. Il y a un moment, le virus il s'arrête parce qu'il peut plus transmettre. C'est ce qu'on est en train d'avoir actuellement avec une descente extrêmement rapide. On est à 644 décès. Donc, alors que si, quand on voit le taux de contagiosité et la population touchée, on aurait pu imaginer, quand on voit ce qui s'est passé en Tunisie, quand c'est passé au Portugal, quand ça contamine énormément, ou même en Europe ou aux États-Unis.
Et quand on regarde aussi ce qui se passe en ce moment aux Antilles, parce que on parlait aussi du milieu tropical, des populations du jeune âge, on voit que, on va dire les choses concrètement, ça tue beaucoup dans les Antilles et beaucoup moins au Sénégal.
Ouais, oui, vous touchez un élément très important. On aurait pu imaginer 1000 morts par jour. Et vous voyez que sur 2 mois, on est à 624. On va dire qu'il y en a peut-être 2/3 même, en comptant 2/3 qui ne seraient pas déclarés. D'accord. Et les morts, c'est difficile de les cacher. Mais on va considérer qu'il y a eu plus d'enterrements, 3 fois plus d'enterrements. Ça fait aux alentours de 1800, 2000. Et non pas 1000 par jour. Donc, par rapport à ça, ce que vous dites justement, et c'est très intéressant, est-ce que on n'est pas en train de démontrer, si j'ose dire, mais c'est vraiment des études intéressantes, une forme d'immunité liée, et ça les Tanzaniens l'ont montré, que 2% de la population américaine avait une immunité avant le Covid, contre le Covid avec les coronas croisés, alors qu'en Tanzanie, c'est plus de 20%, c'est-à-dire 10 fois plus. Et nous, c'est ce qu'on a ressenti sur le terrain, et c'est le fait d'habiter en Afrique qui donne une immunité. Il faut rajouter, bien sûr, la jeunesse de la population. Je ne veux pas rentrer dans des détails aussi sur le groupe A, plus touché que le groupe O, enfin. Mais en tout cas, c'est tous ces éléments-là, probablement. Et du coup, la discussion, c'est finalement, et c'est pas du tout, il faut pas nier, il y a eu des décès, il n'est pas question de minimiser cela. Mais du fait qu'il n'y a pas eu de confinement, on pouvait s'attendre à soit une immunité qui allait durer plus longtemps et qui allait faire plus de morts, ce qui n'a pas été le cas. Et après, aussi la vaccination. Parce que je ne sais pas si je peux en parler là.
Si, on peut en parler parce que justement, on voit que sur un territoire comme le Sénégal, le niveau de couverture vaccinale est encore très faible. Malgré tout, on continue les efforts. Moi, c'est une question concrète que je vous pose. Si les auditeurs nous écoutent, ils disent « bah oui, on va tomber malade, mais c'est pas dangereux. Alors à quoi bon se vacciner ?» Qu'est-ce que vous leur répondez, docteur Massamba?
Encore une question pertinente.
Oui, mais parce qu'on essaie de dire aux auditeurs, il faut vous vacciner, mais si on leur dit en gros, vous risquez pas grand-chose, ils vont dire, bah, je comprends pas ce qu'ils me disent là.
Ouais. C'est tellement crucial cette question. Regardez, dès janvier, ça a été disponible, je me suis vacciné. Je suis un des premiers à être, entre guillemets, serein sur cette maladie, si j'ose dire, par rapport à ce qui se passe en Afrique. Et pourtant, je me suis vacciné. Et quand vous regardez, du coup, la réalité du terrain, là, on parle du terrain en Afrique. Mmh. Effectivement, 100 millions de doses de vaccins pour 1,3 milliard. C'est catastrophique. Le Sénégal, un petit peu mieux placé, loti, je dirais, ouais. dans mieux loti. On est aux alentours, on était ce matin à 12% de la population avec un premier vaccin et presque 8% qui ont eu la vaccination complète. Donc, plutôt bien. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Lorsque nous prenons les patients hospitalisés, écoutez bien, c'est très intéressant. On rejoint exactement ce qui se passe aux Antilles. Quand on prend la vaccination, et partout dans le monde, on a... 96% des personnes hospitalisées ne sont pas vaccinées. Quand on prend des stats. C'est-à-dire que, même si peut-être ça pourra varier avec le temps, mais en tout cas, il est très net. Alors qu'on a déjà une population peu vaccinée, mais quand on est hospitalisé, ce sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Et comme la population a quand même, à près de 50%, parce que le Sénégal a fait un effort, près de 50% des personnes à risque de plus de 60 ans ont été vaccinés, ça fait qu'en fait, ça a probablement protégé ces personnes-là.
Ce qui explique les chiffres globaux.
Exactement. Mais l'autre raison qui est très importante, et ça qui est majeur, c'est en publication actuellement. On s'est aperçu que quand on prend les gens qui ont été infectés par le MERS et le SARS virus, n'oubliez pas que le MERS, qui est un coronavirus, tuait quand même 35% des gens. C'est de ce genre de variant dont on n'a pas envie. Et du coup, ils les ont revaccinés, ça date de 17 ans. Ils les ont vaccinés là contre la Covid avec les ARN messagers. Et on s'est aperçu que quand on a fait des tests d'anticorps neutralisants, ils ont une immunité contre tous les coronavirus, y compris ceux qui sont chez la chauve-souris, chez le pangolin. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que l'idéal, si j'ose dire, c'est presque, on fait la maladie et on a une très bonne immunité déjà qui se fait, on complète par un vaccin et très possiblement, c'est en cours, hein, très possiblement, on pourrait avoir une immunité contre les variants qui pourraient arriver. C'est-à-dire que dans tous les cas, même si on a fait la maladie, il faut compléter par une vaccination. Et si on ne l'a pas fait, faut encore plus le faire. Et ça, c'est vraiment un message majeur à donner. C'est pas parce qu'on a une immunité du fait de résider en Afrique qu'il ne faut pas se vacciner. Au contraire, c'est notre chance peut-être pour arriver à rompre avec cette maladie.
On va poursuivre l'échange dans quelques minutes avec vous, docteur. On retrouvera bien sûr aussi notre invité en studio, le professeur Christophe Rapp, juste après ce titre de Kaliouchis, Télépathia.
De día, de noche. Listen while you talk when you're fast asleep. You stay on the phone just to hear me breathe.
Priorité santé sur RFI, nouvel état des lieux de l'épidémie de Covid-19, ce que change le variant Delta dans la stratégie de riposte, la vaccination. On en parle toujours avec nos deux invités, le professeur Christophe Rapp, avec nous en studio, infectiologue à l'hôpital américain de Paris. En ligne du Sénégal, toujours avec nous, docteur Massamba Sassoum Diop, médecin urgentiste, président de SOS Médecins à Dakar. Pour revenir à la vaccination au Sénégal, docteur Massamba Sassoum Diop, aujourd'hui, quels sont les vaccins qui ont été les plus inoculés dans votre pays ?
Alors, c'est aussi intéressant parce qu'on se posait beaucoup de questions. On a eu le Sinopharm, qui a été beaucoup utilisé.
Le vaccin chinois ?
Exactement. Il y a deux vaccins, le Sinovac et Sinopharm. Mmh. Et il semble quand même que le Sinopharm ait d'un petit peu meilleurs résultats sur les études, les quelques études qui ont été faites au Brésil, par exemple, et en Colombie. D'autre part, on a utilisé l'AstraZeneca et récemment le Johnson & Johnson. Et dans l'avenir, on devrait encore avoir de ces trois vaccins et peut-être aussi, parce que vous avez vu avec les différentes initiatives et des commandes même du Sénégal d'ailleurs, parce que le Sénégal a fait vrai paye, ne fait pas que recevoir des autres, mais achète ces vaccins, et ça aussi, il faut le signaler, c'est important, des ARN messagers. Et donc, c'est un petit peu cet ensemble-là. Et ça veut dire quoi, ça ? Finalement, ça veut dire que quel que soit le vaccin, si j'ose dire, disponible, on le prend. Parce que je crois qu'aussi, ça, c'est un message important. Quelquefois, vous avez des personnes qui disent « Je vais peut-être attendre d'avoir celui-ci, celui-là. » Mais si vous attendez 6 mois et qu'entre-temps, vous êtes à risque et que, avec les comorbidités que vous faites la Covid, ben, vous allez peut-être y passer. Et malgré, vous savez, le Sénégal, à un moment, les structures sanitaires ont été totalement saturées. Mmh. Même si un effort incontestable a été fait dans la prise en charge, avec à tous les niveaux, hein, au niveau de l'État, au niveau des médecins, des réunions, de savoir quel algorithme rythme et tout pour traiter, mais à un moment, il y a un mois, les structures saturaient. Peut-être pas autant qu'en Tunisie, mais c'était quand même, honnêtement, c'était vraiment chaud. Hein. On peut pas dire le contraire. Mais vous voyez que du coup, aujourd'hui, la vaccination, s'il y a un message important à donner, même s'il y a cette immunité, vaccinez-vous. Professeur, et dans le monde entier.
On va y revenir.
Et moi, il y a une chose. Juste,
oui, ouais, allez-y.
Allez-y, ouais, je vous en prie.
Non,
juste une chose qui m'a exaspéré, juste mais en 30 secondes, pendant que, dans une même, en 12 heures d'écart, pendant que le collègue responsable du SAMU des Antilles me disait, c'est une catastrophe, j'ai jamais vu.
Docteur Diop, il y a une petite coupure sur la ligne, on reste dans l'espoir de vous retrouver, est-ce que vous êtes avec nous ? Non.
Écolo qui me dit,
vous revoilà,
oh non
vous
mais, ah oui. J'ai un ami d'enfance. Vous avez entendu le début ?
Non, j'avais entendu que dans les Antilles, il y avait un collègue du SAMU qui disait que c'était la cata.
Qui me disait, voilà. Et parallèlement, à 12 heures plus tard, j'ai un collègue écologiste qui me dit, ah, mais je viens de recevoir une vidéo qui dit que les réanimations sont vides. Une vidéo des urgentistes et des pompiers des Antilles qui disent qu'il n'y a rien. Et que même les médecins qui viennent sont sur la plage en montrant une vidéo. Et ça, ce type de fake news, il faut arrêter. Les personnes qui font ça sont de vrais criminels. C'est-à-dire c'est un mensonge à 100%, et il y a toujours des gens qui vont y croire, et des gens tout à fait, extrêmement variés dans la population.
Mmh. On va y revenir à cette défiance, hein, dans quelques instants, si vous le voulez bien. Professeur Rapp, on perçoit en tout cas dans les messages, on va dire avant l'été, il y avait une certaine sérénité, on a envie d'y croire et on le comprend bien pourquoi. Et puis, il y a eu ce variant Delta, le ton a changé. La rentrée, ça va se passer en présentiel, comme on dit, au niveau du travail, de moins en moins de travail à la maison, c'est ce qui se profile aussi. Aujourd'hui, si on regarde les indicateurs, qu'est-ce qui pourrait conduire à refermer ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est envisageable ?
Alors disons, les mesures de freinage très fortes comme le confinement sur une population très vaccinée comme la nôtre, et avec le pass sanitaire et les différentes mesures mises en place pour la rentrée scolaire, c'est quand même peu probable. Mmh. On a normalement, avec l'accélération de la vaccination et les différents outils à notre disposition, notamment le dépistage dont il faut parler, hein. Il faut continuer de dépister les symptomatiques. Il y a des questionnements sur l'intérêt des dépistages hebdomadaires dans les écoles. Ça n'a pas été retenu en France, mais certains pays le font. Donc il y a des grands principes qui doivent être poursuivis pour éviter justement de conduire à des mesures de freinage. Mais a priori, en métropole, on va pouvoir s'affranchir de ces mesures de freinage, sauf émergence d'un nouveau variant qui serait plus dangereux que le variant Delta.
Professeur Rapp, pourquoi est-ce qu'on ne vaccine pas les enfants en dessous de 12 ans ?
Alors pour l'instant, on ne vaccine pas les enfants en dessous de 12 ans car les vaccins ne sont pas homologués ni par l'OMS ni par les agences européennes ou américaines du médicament. Les études sont en cours, les résultats vont être publiés en fin d'année, courant novembre, décembre. Et la question se posera, ça va venir assez vite, au début 2022, de vacciner les moins de 12 ans.
En ce qui concerne la troisième injection, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ?
Alors cette injection de rappel, parce que c'est pas toujours une troisième dose, hein, cette injection de rappel, elle est très importante pour les plus de 80 ans en EHPAD, pour les sujets de plus de 65 ans et pour les sujets à risque ayant des comorbidités. Il faut signaler également qu'il faut faire un rappel quand on a eu un vaccin Johnson & Johnson, une seule dose, il faut faire un rappel. Car sur le variant Delta, cette injection unique de Johnson ne suffit pas. Donc il y a vraiment un contingent de population qui relève de ce rappel. En population générale, pour l'instant, la décision n'est pas prise, hein, ça pourrait arriver, mais pour l'instant, la décision n'est pas prise de vacciner, de proposer un rappel vaccinal à toute la population.
Alors, une question qui peut sembler anecdotique, mais comme on en entend parler, eh bien, je vous en parle, les purificateurs d'air. Qu'est-ce qu'en pensent les spécialistes des infections, marketing ou vraie utilité sanitaire ? Est-ce que l'enjeu, c'est pas tout simplement d'aérer les pièces ? En même temps, il y a des immeubles où on ne peut pas ouvrir les fenêtres, hein, donc ça peut aussi servir.
Donc l'aération des locaux, hein, et des locaux clos dans les écoles, etc., c'est fondamental, effectivement. Les purificateurs d'air peuvent être utiles dans des lieux clos, qu'on a du mal à aérer. C'est un moyen, il n'y a pas d'études, hein, qui prouvent vraiment l'efficacité de ces mesures sur une pandémie telle que celle du Covid, mais on peut penser que ça peut être un moyen complémentaire dans certaines structures. Les limitations, c'est le coût, et tout le monde se renvoie la balle entre l'enseignement, le ministère de l'enseignement, les collectivités locales. C'est quand même très très coûteux et ça n'a pas été pris en compte dans les budgets au départ.
Alors que ça a été fait dans certains pays d'Europe. Docteur Massamba Sassoundia, tout à l'heure vous évoquiez justement, on entendait votre colère, les fake news, les messages diffusés notamment sur les téléphones, ces films absolument douteux que certains utilisent et partagent pour faire passer leur message toxique. Est-ce que c'est quelque chose ici que vous voyez autour de vous, dans la rue ? Ça intéresse les gens ou finalement ça leur passe au-dessus de la tête ?
C'était à moi ?
Oui, c'était à vous, docteur. Je vous posais la question sur la diffusion des messages. Sur la diffusion des messages, est-ce que les gens en parlent dans la rue ou pas trop ?
Non seulement les gens en parlent, mais vous voyez qu'en fait, moi je reçois périodiquement, quand je dis périodiquement, journalièrement, des messages avec des gens qui me disent « Regarde, est-ce que c'est vrai ?» Mmh. Et ça veut dire que, et c'est des choses, mais je dirais grossières, hein, mmh. C'est-à-dire que, et de personnes tout à fait, de tout
raisonner, hein,
toute personne, voilà. Donc ça veut bien dire que ça touche quand même les gens, et à force d'en envoyer, vous finissez par mettre le doute. Entre autres, il y en a eu un énorme au début. Je pense que avant que les gens se vaccinent, ça a été au Sénégal, ça a été très 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 complexe, y compris chez les soignants, pour que les gens acceptent. Maintenant, ça a été accepté, mais il y avait un énorme doute, et c'est lié à ces fake news. Et il y a des régions de Dakar, du Sénégal, pardon, la région entre autres de Touba, où les Sénégalais de l'étranger ont envoyé beaucoup de messages en disant attention, attention. Et ça a aussi freiné énormément la vaccination dans ces régions-là, les gens pensant qu'effectivement il y avait un problème. Donc il faut faire très attention, ça a un impact réel.
On va en parler justement, comment ces mesures, notamment les mesures barrières, les restrictions, la prévention, comment c'est perçu dans le contexte ouest-africain, on en parle tout de suite.
RFI à Lomé 91.5 FM.
Avec vous, Bernard Sêtre, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur de BNS Communication, membre de la Société francophone de médecine tropicale et santé internationale, à laquelle d'ailleurs vous appartenez aussi, docteur Massamba. Donc, vous avez coordonné l'enquête socio-anthropologique menée par l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé pour comprendre la qualité, la mauvaise adhésion aux mesures de prévention. Ça s'est passé dans 5 pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles conditions cette étude a-t-elle été menée et par qui ?
Alors, donc nous avons mené cette étude pour l'OAS, comme vous l'avez dit. Ce que nous voulions comprendre, c'est quelles étaient les motivations dans le non-respect des mesures barrières. Au-delà de ce qui était souvent dit, parce que souvent on interprète ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et nous voulions savoir non pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais ce qui se passe réellement dans la tête des gens. Et donc cette démarche n'est pas si fréquente que ça, c'est-à-dire nous sommes allés au-devant de la population, avec des sociologues et des anthropologues, et nous avons interviewé 2000 personnes en face à face, pour mener cette enquête, avec le soutien d'Expertise France et du ministère des Affaires étrangères français. Alors, nous avons eu des surprises. Notamment, il suffit de descendre dans la rue, dans ces pays d'Afrique de l'Ouest, pour voir que les gens ne respectent pas les mesures barrières, ou très peu, et par exemple le port du masque. Or, nous avons montré que non seulement la quasi-totalité de la population a entendu les explications sur les gestes barrières, mais surtout que la très grande majorité pense que ces mesures barrières sont utiles. Par exemple, pour le port du masque, 76 à 98% des gens, selon les pays, pensent que le porter le masque est utile pour prévenir le Covid-19. Et pourtant, ils ne portent pas le masque. Donc là, nous nous sommes dit, pour quelles raisons est-ce que les gens ne respectent pas ces mesures barrières puisqu'ils les comprennent ? Et cela s'étend à la vaccination, bien évidemment. Nous avons mené notre enquête avant que la vaccination commence, mais ça s'étend à la vaccination. Eh bien, en réalité, ce que nous avons montré, c'est que, et ça le professeur Diop l'a dit tout à l'heure, c'est que les gens ne se sentent pas menacés. Mmh. Et une enquête d'ailleurs menée par les CDC africains avait montré déjà que les 2/3 de la population dans cette région du monde pensent que l'épidémie est exagérée, la menace de l'épidémie est exagérée. Nous, les qualitatifs que nous avons menés, nous ont dit, les gens que nous avons interviewés, c'est qu'ils voient sur les télévisions étrangères des images de malades, de morts. Au Brésil, par exemple, il n'y a pas assez de place dans les cimetières pour enterrer les morts. Et que sur leur télévision nationale, ils ne voient pas d'images de personnes malades, de personnes décédées, etc.
Est-ce que vous parleriez pour autant d'un déficit d'information ?
Oui, je pense. C'est-à-dire que je pense que il faut absolument montrer la réalité de la maladie sans l'exagérer. Mmh. Sans l'exagérer, parce que si on exagérait,
c'est encore
comme
pire.
L'a dit le professeur Diop, l'ampleur de l'épidémie n'est pas la même, enfin surtout la morbidité n'est pas la même que ce que nous avons par exemple en France. Donc si on exagère, on va se décrédibiliser, mais il faut montrer la réalité, cela c'est essentiel.
Par contre, ce que vous avez aussi pointé, ce qui est intéressant par rapport à celles et ceux qui nous écoutent en Afrique, c'est que il y avait pas mal de craintes sur le risque de contagion en milieu médical, ce qui a écarté les patients des structures de soins. Et là, ça a pu avoir des conséquences pour d'autres maladies. Je pense par exemple au suivi du PALU, par exemple.
Oui, tout à fait, sur la prise en charge de maladies et pour le dépistage. Le dépistage du VIH, de la tuberculose, enfin, et pour la vaccination infantile également. Mm-hmm. Donc oui, les chiffres sont variables selon les pays, mais en gros, en moyenne, les 2/3 des gens pensent qu'ils risquent d'attraper le Covid en se rendant dans une structure sanitaire. Donc ce qui est aussi un problème, donc un des axes de communication que nous avons proposé, c'est de rassurer sur les précautions qui sont prises dans les structures sanitaires pour que les gens retournent vers ces structures sanitaires.
Alors il y a ce constat et puis il y a les recommandations. Hein. Qu'est-ce que justement vous préconisez pour améliorer tout ce travail de prévention et surtout l'adhésion des populations ?
Alors d'abord, ce que je veux souligner, c'est... Alors là, j'aurais relativisé un peu ce qu'a dit le professeur Diop tout à l'heure, c'est que d'après ce que nous avons vu, à la fois par l'enquête quantitative et l'enquête qualitative c'est les entretiens approfondis en face à face, ce que nous avons vu c'est que l'impact des fake news n'est pas si important dans le fait que des gens ne veuillent pas se faire vacciner ou ne respectent pas les gestes barrières.
Il faut conclure, Bernard Sêtre, si vous pouvez conclure.
Donc, notre recommandation, c'est de montrer la réalité de la maladie, de se concentrer là-dessus, et notamment de montrer, ce dont a parlé le professeur Diop, par exemple, les services hospitaliers qui accueillent les malades, qui étaient embouteillés à certaines étapes de l'épidémie. C'est ça qui est important, c'est de montrer, donner aux gens les éléments pour qu'ils se fassent leurs propres opinions.
Faire preuve de transparence. Merci beaucoup pour votre éclairage, étude que l'on retrouve dans le bulletin de la revue médicale de médecine tropicale et santé internationale, qui est en accès libre sur Internet, sur l'excellent site de la Société francophone de médecine tropicale et santé internationale. Docteur Diop, on voit donc ce déficit d'information. Encore une fois, vous parliez tout à l'heure de cette incitation à vacciner. C'est pas de la propagande, c'est une réalité médicale et scientifique.
Oui, exactement. Mais cette enquête, et nous, c'est le ressenti qu'on a du terrain, est exactement la même. Je trouve que cette enquête est excellente. D'ailleurs, on fait partie de la même société, d'ailleurs, de scientifiques. Et ce suivi au niveau des... vous savez, les patients, effectivement, ne voient pas. Et on avait de proposer, justement, parce qu'en fait, c'est particulier. La bourgeoisie, les personnes aisées... et ont plus vu, parce qu'il y a eu plus de décès, parce qu'il y avait plus de personnes âgées avec de plus de comorbidités, et eux ont été beaucoup plus sensibilisés que l'ensemble de la population. Moi, ça m'arrive quand je fais des conférences où les gens me demandent, je veux voir une photo de quelqu'un qui est malade au Sénégal. Mmh. Vous voyez jusqu'à quel point c'est vrai. Et donc, effectivement, il faut faire attention à cela. Et sur les fake news, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que c'est plutôt un certain type de personnes qui circulent. C'est plus dans le monde entier, mais en tout cas, pour ce qui est du Sénégal, je suis d'accord que ce n'est pas le principal facteur.
Professeur Rapp, excusez-moi, on arrive vraiment à la conclusion là. C'est vrai que je voulais aborder ce sujet avec vous parce que on disait pas trop de fake news, par exemple dans un certain nombre de pays du Sud. Par contre, on va dire qu'en France là, ça déborde. Il y a même des gens, apparemment, c'est des professionnels, ce qu'on appelle des trolls de la réponse et de des fake news. La contestation qui est aussi largement médiatisée. Il faut dire qu'il y a des rendez-vous tous les week-ends des personnes qui s'opposent d'un côté à la vaccination, de l'autre au pass sanitaire dans les grandes villes de France. Comment l'infectiologue que vous êtes perçoit-il ce positionnement d'une partie de l'opinion publique? J'imagine quand on a derrière soi des dizaines d'années de pratique en médecine tropicale, en maladies émergentes, on n'imaginait pas voir ça un jour.
Alors, non, on n'est pas tellement surpris parce que c'est plus un phénomène sociologique, voire anthropologique. Pour moi, c'est pas un problème sanitaire parce qu'en France, quel que soit le moment, vous allez avoir des contestataires et ce mouvement, il est très hétéroclite. Il y a de la récupération politique, il y a des hésitants auxquels il faut parler pour les accompagner. Et puis, vous avez des complotistes et ce mélange hétéroclite, il traduit la fracture sociale, la fracture de la démocratie, l'Europe vieillissante. Et c'est un problème sociologique auquel les politiques n'ont pas répondu. Et d'ailleurs, on est en période électorale et on n'a pas l'impression qu'ils aient beaucoup de réponses. Et on aimerait d'ailleurs être aidés, parce que ce n'est pas le rôle des médecins, finalement, de contrer ce phénomène, puisque nous, on constate au contraire qu'il y a une adhésion extrêmement forte de la population. Personne n'aurait pu préjuger d'un tel résultat sur la campagne vaccinale.
Vous parlez du taux de couverture vaccinale France aujourd'hui.
Exactement. Donc pour nous, c'est pas le sujet, ça avance bien, mais il y a ce mouvement qui est un mouvement sociologique. Là, on parlait avec Bernard Sêtre qui s'intéresse à l'anthropologie. C'est de l'anthropologie, européenne.
Et on en parle aussi dans d'autres émissions que Priorité Santé sur RFI. On vous remercie tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. On se dit à bientôt parce qu'on n'a pas fini évidemment d'en parler. Merci d'avoir été en ligne de Dakar, Dr Massamba Sassoum Diop. Et à très bientôt dans notre émission. Et merci beaucoup à vous, professeur Christophe Rapp, d'avoir répondu à notre invitation. Votre émission touche à sa fin. C'est le moment de remercier cette fois Ophélie Lassen, Louise Calédec, Stéphane Elsley et Laurent Hérault qui ont fabriqué et préparé cette émission. Demain, rendez-vous avec le docteur Catherine Solano, sexologue. Vous pourrez lui poser les questions de votre choix. On se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance, qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
RFI parle au monde en français.